C'est-à-dire que je suis né à la Bavac.
La mémoire, c'est quand même une bonne chose.
Mais enfant, vous avez...
Pour ainsi dire, travailler à la ferme n'était pas payé. Après, j'ai fait les huîtres, c'était pas payé.
Et c'est pour ça que je me prénomme Paul.
Langouste, homard, gras.
Oh, j'en ai vu des choses. Hein.
Les amers invisibles. Ce début d'année 93 marque la défiance des gouvernements qui vont se succéder à l'encontre de la France rurale qui n'accompagne pas toujours, comme ils le désirent, les décisions radicales élaborées dans l'ébullition parisienne. La conscience révolutionnaire est encore loin d'être universelle. Si le besoin d'équité, l'espoir fou de la Révolution, est partagé par tous, les moyens pour y parvenir sont source de bien d'incompréhension. La situation économique est en outre très mauvaise. Les campagnes, celles qui nourrissent les villes, payent un lourd tribut révolutionnaire aux immenses besoins militaires en hommes et en provisions. Ce mécontentement populaire est instrumentalisé par tous ceux qui appellent à l'ordre ancien. Sans atteindre l'ampleur et la brutalité du soulèvement vendéen et de sa répression, la situation en Bretagne occidentale se révèle explosive. Les foyers de colère et de résistance se multiplient. La Convention décide de parer à toute éventualité en envoyant des troupes régulières dans les contrées les plus suspectes de soutenir les contre-révolutionnaires. Laisser la surveillance des côtes aux volontaires locaux est un trop gros risque. À l'Andéda, le fort saison se garnit de soldats originaires d'autres provinces. Les maires de l'Anilis, de l'Andéda et du Brouénou sont dessaisis. L'administration départementale les affuble d'un tuteur, le Couat.
Il s'agissait de remettre de l'ordre. Nous étions conscients que les citoyens qui avaient eu le courage de soutenir l'œuvre révolutionnaire dès son origine n'avait pas tâche facile. Mais nous connaissions aussi le poids de l'influence du clergé, de la noblesse dans ces communes, surtout celle du clergé. Son travail de sape éloignait de nous cette partie de la population pour laquelle nous nous battions. Les plus déshérités, les plus pauvres. Aussi, nous nous devions de prévenir toute tolérance envers les ennemis de la Révolution. J'admets que Robespierre et sa clique ont eu la main lourde en faisant guillotiner Daniel, l'ancien maire de l'Anilis. Ce qui, à certains égards, a entretenu le fanatisme, mais nous n'avions pas le droit de reculer. Et justement, en Bretagne, et parce que je suis breton, vous savez la réputation que nous avions à Paris? J'ai souvenir d'un discours de Camille Desmoulins au sujet de l'ouverture d'écoles primaires sur tout le territoire. Une belle idée, n'est-ce pas? Eh bien, il regrettait le retard pris dans ses ouvertures, car, je le cite de mémoire, cela aurait fait tomber de la tête des bas bretons la croûte de la superstition. La croûte de la superstition. Vous vous rendez compte?
L'irritation des idéologues de la Révolution est d'autant plus grande que leur message se heurte au barrage de la langue. Le français est encore loin d'être celle de la République, hormis dans les textes. Depuis 1794, aucun décret gouvernemental n'est traduit en breton, sinon par des gens de bonne volonté ou encore par ceux qui en dénoncent le propos. À l'Andéda, une partie écrasante de la population ne parle que le breton, pense en breton. Les soldats, fraîchement arrivés en nombre, doivent composer avec des gens dont ils n'entendent pas la langue. La réciproque étant sans doute moins vraie, mais cet état de fait ne facilite en rien la fluidité des relations. La rudesse de leurs conditions de vie au fort, le rôle répressif auquel ils sont tenus, ne laisse pas aux militaires le loisir ou même l'envie de porter la bonne parole. Le prestige de l'uniforme, cependant, est utile à l'occasion des cérémonies organisées pour l'édification du peuple. Lors de la plantation de l'arbre de la liberté, par exemple, où une section vient spécialement de saison, en présence de Berthier, le commandant du fort, tirer une salve de 4 coups de mousquet. Le pauvre chêne est abattu quelques semaines plus tard, on ne sait par qui. Des vagabonds, selon les rapports. Qu'à cela ne tienne, on en plante un autre avec un discours suffisamment dissuasif du citoyen Goulevin Tréguer pour que d'autres vagabonds ne tentent pas à nouveau leur chance.
Concitoyens et amis, vous savez que des malfaiteurs ont tronçonné l'arbre de la liberté de votre commune. Le crime est de lèse-nation et ne mérite d'autre peine que la mort, suivant l'acte constitutionnel et le code pénal. Les délinquants, malgré toutes les informations possibles, n'ont pu être reconnus. De sorte que la commune, suivant les lois, est responsable du délit commis et menacé d'une garnison de 200 hommes si l'arbre de la liberté n'était pas aujourd'hui remplacé. Si vous avez quelque peu d'honneur et de raison, vous ne devez pas ignorer combien d'obligations vous devez avoir à vos autorités constituées qui n'ont épargné ni leur peine, ni leur veille, ni leur crédit pour vous éviter une expédition militaire qui vous aurait coûté environ 5000 francs, sans y compter les frais de logement de garnison et peut-être l'arrestation d'un dixième de la commune.
La pluie et le mauvais temps mettent fin aux festivités, mais enfin, l'arbre est replanté et le message est passé. Moins glorieux, mais tout aussi révélateur d'une difficile cohabitation, sont les faits relatés dans un rapport rédigé par l'officier municipal. Ce 6 mai 1796, Marie-Philly rentre chez elle.
J'étais au niveau de Croisuela. Je les ai vus arriver de loin, entendus plutôt. Ils étaient deux, braillaient comme des veaux, et ils marchaient pas droit. J'ai baissé la tête avant de les croiser, mais le plus grand d'entre eux m'a barré le chemin. J'ai voulu continuer, mais il m'a pris par le bras. J'ai crié. Je suis enceinte, vous comprenez. Je ne pouvais pas me débattre comme je voulais. Il a bien vu. Il a commencé à me toucher en me disant des choses. Il avait le regard méchant. Il a voulu m'embrasser. J'ai mis mes mains pour me protéger et il a essayé de me mordre. J'ai réussi à me réfugier chez Guillaume Lostis à Kerdreas. Il n'y avait personne dans la maison et ils m'ont poursuivi jusque-là. Et là, le même m'a pris par le cou. Il m'a forcé à mettre la tête sur la table et il a levé son sabre. C'est là que Guillaume Lostis et Yves Le Goff sont arrivés. Sans eux, je serais peut-être morte alors qu'il est.
Milange et Corfin, c'est le nom de ces deux soudards, tous deux officiers aux forçaisons, continuent sur leur lancée car quelques heures plus tard, ils volent la chaloupe de la garnison. Visiblement ivres, ils sont rattrapés à quelques encablures de la côte et déclarent sans vergogne à leurs poursuivants qu'ils cherchent tout bonnement à rejoindre l'Angleterre. Même tentation qui aurait été évoquée, selon les témoins, 2 ans plus tôt par la citoyenne Berthier, qui n'est autre que l'épouse du commandant du Fort Saison. Elle fait l'objet d'une plainte déposée en bonne et due forme auprès de la mairie, par 7 auxiliaires volontaires, des hommes de Landéda tenus à servir au fort, qui ont eu affaire à elle. Elle refuse ce jour-là de transmettre à son mari leur demande de délivrance d'un certificat dont ils ont besoin. Jean Bernicotte et Gabriel Hart sont de ceux-là.
Rien. Elle n'a rien voulu savoir. Pourtant, elle savait qu'on avait besoin des certificats pour la solde.
Oh, vrai ? On se demandait qui commandait au fort. Même les soldats tremblaient devant elle.
Et nous, les volontaires, eh bien, elle nous traitait comme du bétail.
Oui, ce qu'elle nous servait à manger, un cochon, on n'aurait pas voulu. En plus de ça, elle nous forçait à aller couper du goémon pour elle.
Oui, et quand on rechignait, elle nous traitait d'aristocrate. Je te jure.
Ah ça, si tu restais boire un coup avec elle, tu pouvais être son ami. J'ai jamais vu une femme boire autant. Et tout, et du vin, et de l'agneau.
Et quand elle était dans cet état, pas moyen de la contredire. Valait mieux pas. C'est là, une fois, qu'elle a dit qu'elle serait mieux en Angleterre.
De toute façon, vous ne comprenez pas la moitié de ce qu'elle disait. Elle parlait en français. Enfin, elle parlait. On avait l'impression d'être engueulé tout le temps.
Ouais. C'est comme la femme du commandant de la douane.
Oh là là, celle-là aussi. Elle échangeait du pain contre du vin. Elle faisait la paire, toutes les deux.
Ouais, j'aurais pas aimé être leur mari.
Doit-on jeter la pierre à cette femme qui doit suivre son militaire de mari dans une contrée aussi rude dont elle n'a pas les clés et dans des temps aussi tendus que ceux-là? Malgré tout, et parce que la nature humaine est ainsi faite, un certain nombre des filles de la côte ne furent pas insensibles au charme des militaires et les premiers registres d'état civil actèrent mariage et naissance, intégrant dans la communauté des noms aussi exotiques que Martin ou Vivenot. Les voix de la Révolution sont multiples, et elle mettra quelque temps à faire entendre celle de sa raison. Passé le Premier Empire, le XIXe siècle verra s'affronter les Blancs et les Bleus dans les urnes cette fois-ci, mais avec toujours autant d'ardeur et de passion. L'histoire ne dit pas si Jean Tréguer, le gardien des joncs maritimes, aura eu gain de cause et si son travail fut enfin rétribué à sa juste valeur par l'administration. En tout cas, 200 ans plus tard, la décision de planter des zoyas pour sauvegarder les dunes de Sainte-Marguerite ne put que confirmer sa vision. Si rien ne retient le sable, il continue d'avancer.
Mais manévez n'entra au terre entreas avant sa réotao.
Les amers invisibles.